Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons, alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr. Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast qui est désormais intégrée à La Relève, l'agence food créative que j'ai cofondée en 2020, spécialisée dans les projets culinaires, les partenariats food et le management de chefs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Robert Compagnon et Jessica Yang du Rigmarole et de Folderol.
On veut que ce soit un câlin, on veut que ce soit un câlin calculé, un câlin technique, mais un câlin avec cette sorte d'accent sur la nostalgie, sur... Je parle souvent du plaisir intellectuel et du plaisir décadent. Pour moi, c'est un sorte de spectrum de plaisir. Et on veut que ce soit un peu au milieu, on veut que ce soit une sorte de plaisir décadent qui est... Enfin, voilà, donc c'est...
Mais chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut que tu aies envie de prendre deuxième, troisième cuillère. Sinon, il faut continuer à travailler.
Ouais.
Avec leurs deux établissements du 11e arrondissement de Paris, un restaurant et un bar à vin glacier, Jessica et Robert mettent du baume au cœur. Depuis 2017, ils livrent à l'adresse de Rigmarole une cuisine d'instinct de haut vol, cuite en grande partie sur les charbons ardents d'un barbecue japonais. Et depuis 2020, au Folderol, une sélection de vins d'auteur et de glaces envoûtantes. Le point commun, des adresses ultra personnelles, vivantes et vibrantes, où c'est certain, j'adore venir et revenir. Avec Jessica et Robert, nous avons parlé d'amour, de réseaux sociaux, de pâtes et de pâtes. Bonne écoute! Bonjour Robert, bonjour Jessica.
Bonjour.
Bonjour.
Depuis 2017, les projets s'enchaînent et ne se ressemblent pas. C'est vrai que moi, je suis fan de vos différents projets, mais il y a eu la cuisine au Pinchotan, les glaces, le bar à vin, les pizzas. Comment vous imaginez ces différents projets ?
En fait, on regarde les restaurants comme un peu comme des outils, et je crois que c'est le Covid qui nous a un petit peu montré la flexibilité qu'on pouvait avoir avec les outils qu'on a qu'on a devant nous. D'un certain côté, c'est des choses qui nous tiennent tous à cœur, que ce soit la glace, la cuisson au charbon, les pâtes, la pizza. C'est, je crois que le fil connecteur, c'est aussi toutes sortes de choses qui ont un sorte de poids nostalgique pour les gens. Personne n'a de mauvaise association avec la glace, les pâtes, la cuisson au charbon, la pizza. C'est des choses qui apportent du plaisir.
Très accessible à tout le monde. C'est pas prétentieux, c'est des choses...
C'est juste délicieux.
Ouais, c'est juste délicieux.
C'est par goût aussi, c'est des choses que vous aimez manger, enfin c'est assez...
Oui. À 100%, c'est vraiment ce qu'on aime manger. Et quand on parle du Rigmarole, on dit que c'est un restaurant qu'on a fait... Enfin, dans lequel on aurait voulu manger. C'est vraiment ça, c'est en termes de l'organisation du menu et le contenu du menu, l'espace, c'est vraiment des choses qu'on voudrait pouvoir avoir l'expérience. mais qu'on est très content de pouvoir donner cette expérience aux gens qui veulent bien nous suivre.
Mmh. Ouais, vous seriez les premiers clients, on va dire, de votre restaurant.
C'est marrant parce qu'on dit.
Je sais pas si j'ai entendu un bar à vin avec des glaces, j'aurais été le premier.
Ouais, je crois que j'aurais quand même pas mal un côté un petit peu sceptique de tout ça. Ah ouais, c'est. Ouais.
What the fuck?
Ouais, un petit peu. Enfin voilà, après, ça c'est l'autre côté, c'est qu'on essaye d'avoir de la qualité dans ce qu'on fait. Et je suis sûr que si on goûtait, si c'était pas nous qui le faisions et que si on le goûtait, ça nous rendrait contents. Voilà, c'est plus ça.
Ouais. Et j'allais dire, vous disiez, c'est des choses accessibles et pas prétentieuses, mais néanmoins qui sont aussi à un niveau, je vais pas dire gastronomique, mais dans le sens qui sont, c'est pas des glaces qui sont simples, c'est oui. Pas des pizzas qui sont simples, c'est pas des pâtes, enfin c'est très travaillé.
C'est travaillé, mais on veut pas que le travail soit ressenti quand on le mange. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on dit assez souvent, c'est que tu peux être un enfant de 5 ans ou un critique culinaire japonais de 65 ans et avoir une expérience complètement différente, mais quand même prendre du plaisir. Et donc je crois que c'est ça aussi qu'on essaye de rechercher, c'est cette sorte de simplicité, presque déceptrice, où ça a l'air d'être simple sur la surface, mais si on creuse un petit peu, c'est vrai qu'il y a de la complexité, que ce soit dans la technique ou dans les préparations ou les goûts qui
on ressent bien dans les glaces notamment, voilà, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'accessible, facile
et que tout le monde a l'expérience avec la glace, donc tout le monde a un sorte de préavis, d'avis préconçu de la glace. Ouais. Et donc, c'est d'essayer de surprendre, mais de rester accessible.
Ni l'un ni l'autre n'est tombé dans la marmite, comme on peut dire, de la cuisine enfant. Enfin, vous avez d'ailleurs fait des études, toi, japonais, Robert, et toi, histoire de l'art.
Ouais.
Et comment c'est arrivé, la cuisine?
Moi, j'ai commencé avec chimique, ingénieur au début, pour mes études, et j'ai commencé de travailler dans un restaurant. Et j'ai adoré, et c'est là où j'ai décidé de changer les consultations pour pouvoir continuer de travailler dans un restaurant qui prend énormément de temps.
C'était aux États-Unis?
C'était aux États-Unis, à Berkeley. C'est un petit vivre avec énormément de bons restaurants. Après, j'ai essayé de travailler dans le marketing pour un supermarché parce que mes parents n'étaient pas très contents que j'ai gâché mon degré. Et finalement, je voulais continuer en cuisine, donc j'ai parti pour Ferrandi à Paris. Et c'est là où je fais mon stage chez Guy Savoy. Et j'ai rencontré Robert là-bas.
Pourquoi tu as voulu venir à Paris? Enfin, tu t'es dit, je vais apprendre la cuisine, je vais
en
venir
fait,
à Paris.
Finalement, je voulais faire la cuisine, mais je me suis dit, je suis vieux pour commencer ce métier qui est...
C'est un univers infini.
Oui, c'est un univers infini. Donc, j'ai choisi pâtisserie parce que, au moins, en France, tu peux vraiment apprendre presque tout. Et le reste, ça doit être facile d'apprendre de mon côté.
En pâtisserie.
Oui. Je n'ai pas besoin de voyager pendant 10 ans
voir la cuisine chinoise, indienne, japonaise,
ça te
mexicaine.
Paraissait plus accessible, la pâtisserie?
Ouais, et c'est aussi quelque chose que j'adore. Donc, j'ai fait le programme Ferrandi parce que c'est 3 mois des études, 6 mois de stage. Et en fait, je voulais juste travailler. Je n'ai pas besoin vraiment de rester dans une école pendant 2 ans, 3 ans.
C'est le pied dans la porte.
Ouais. Il faut vraiment juste commencer de travailler. Et
je crois à notre génération aux États-Unis, il y avait toujours cette sorte de idée des années 80-90 de tous les chefs américains qui avaient un statut, qui avaient fait leur apprentissage en France. Donc je crois qu'on avait toujours cette... cette voilà, enfin la cuisine française était continue à l'être un petit peu, mais vraiment était reine des États-Unis à ce moment-là.
Et toi, tu as grandi aussi aux États-Unis?
Donc moi, je suis né aux États-Unis, mais après, j'ai grandi entre Paris et Londres. Mais j'ai fait un bac français. Et puis après, je suis allé à l'université aux États-Unis. Donc, je suis moitié américain, moitié français. Je suis allé à l'université aux États-Unis à New York, donc où j'ai étudié la littérature japonaise. J'ai essayé de travailler dans un cabinet d'avocat pendant quelques mois pour voir si je voulais aller en école de droit, mais ça... Ça n'a pas du tout marché. Après, j'ai commencé à travailler dans un restaurant pour voir si je voulais aller en école de cuisine. Et j'ai eu la chance qu'un boulot est devenu un autre boulot, est devenu un autre boulot. Et donc, je ne suis jamais allé en école de cuisine.
Ah oui, t'as appris sur le
tas. Ouais, voilà, exactement. Et j'ai utilisé le fait que je pouvais parler japonais pour travailler dans des restaurants japonais, des restaurants français. À New York surtout. Après, j'ai passé pas mal de temps au Japon pendant mes études. Mais c'était pas du tout, enfin, dans mon futur imaginé d'être en cuisine. Donc, ouais. J'ai travaillé dans des restaurants, mais un restaurant de ramen. J'ai aussi travaillé dans un village de pêcheurs à couper du poisson.
C'est plus pour apprendre la langue.
Oui, voilà, c'est plus pour apprendre la langue que pour apprendre la cuisine.
Initialement,
oui, ouais, voilà. Et puis après, donc, ouais, c'était un bon petit atout que j'ai pu exploiter, on va dire.
Et ça t'a plu finalement, c'est de fil en aiguille où t'as commencé à t'intéresser à la cuisine?
Non, en fait, je crois que nous deux, Jess et moi, depuis qu'on est tout petits, la nourriture, ça a vraiment été important dans notre famille. Ma mère est vraiment une des meilleures cuisinières que je connaisse, mais une sorte de cuisinière de semaine où tous les repas en famille sont moins délicieux. Mon père aussi, c'est lui qui m'a d'abord amené dans des restaurants. Mais lui, c'est plus le cuisinier du week-end, qui a les petits projets avec les choses comme ça. Donc, j'avais vraiment les deux côtés, le côté juste simple, délicieux, maternel, et le côté un peu plus travaillé, ambitieux de mon père. Et je crois pour Jess, c'est aussi tout le côté taïwanais, où le repas familial est vraiment important, une série de plats, on partage tous.
J'avais la chance, ma mère a fait, je ne sais pas, entre 6 et 8 petits plats pour chaque soir. On a toujours une soupe, toujours des légumes.
Un poisson, une viande,
ouais.
Donc, c'était dans la culture de la famille.
Ouais, ouais. Ouais. Tout manger ensemble et après on amène le reste pour déjeuner normalement.
Qu'est-ce qui t'amène chez Guy Savoie après ces expériences de restaurant japonais à New York?
Non, bah en fait c'était le contraire. Donc j'ai commencé dans un sorte de bistrot français à New York. À la base, c'est juste pour trouver un boulot, c'est juste pour entrer dans un restaurant pour voir comment est ce monde et est-ce que c'est un monde dans lequel je peux me voir dans le futur. Et donc c'était un bon bistrot français, mais c'est franco-américain. Il y avait des burgers, il y avait, je pense, il y avait une caille genre Southern Fried Chicken Quail qui était buttermilk brine, c'était assez bon. Mais après, un peu au pif, j'ai envoyé mon CV chez Ducasse et j'ai une place au Jules Verne. Enfin, sous Ducasse, donc c'était, voilà, on peut dire ce qu'on veut, on va pas trop en parler, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Enfin voilà, c'est 125 couverts midi et soir avec une étoile, je blague un petit peu, ou sur la Tour Eiffel, ouais, et je blague souvent que c'est un peu le McDonald's des étoilés, mais pour moi qui avait juste vu le côté américain de la chose, c'était un coup de pied au cul. C'était vraiment quelque chose où j'ai vraiment dû baisser la tête et juste subir et apprendre.
C'était dur.
C'était dur, oui, c'était dur. Mais c'était, enfin, si on regarde sur le long terme, c'était très bien. Je crois que j'avais besoin d'un coup de pied au cul. J'étais un petit jeune de 22 ans, prétentieux, qui pensait qu'il savait tout. Et j'avais besoin d'être un petit peu remis dans ma place par des jeunes de 17 ans qui savaient, qui savaient 5 fois plus que moi. Et puis après, donc, j'ai postulé chez Guy Savoie. Et enfin, voilà, j'ai juste bossé, quoi. Je crois que j'étais à la viande quand Jeff était là. C'était des bonnes expériences, c'était des bonnes expériences. Et puis après, j'ai travaillé chez Rhino, et donc c'est ça qui m'a un petit peu aussi mis montré le côté un peu plus, on va dire, bobo, ouais, bistronomique.
Au grand écart de Guy Savoie.
Ouais, bah, je crois que j'en avais besoin. Et puis après, on est rentré aux États-Unis. Jess a travaillé uniquement dans les étoilés, parce qu'elle est très très forte. Donc elle a travaillé chez Persei et Chef's Table.
En pâtisserie, t'as pas un choix, il faut travailler dans des étoilés, sinon t'as pas un programme dédié aux pâtisseries.
Ouais. Ouais. Donc elle a travaillé chez Persei et Chef's Table.
C'était vraiment dans l'excellence, que des restaurants étoilés, comme disait Robert.
Ouais. Oui, mais c'était. J'ai aussi travaillé dans un hôtel qui n'avait pas des étoiles. C'était aussi une bonne expérience, mais.
T'avais envie de ce niveau d'excellence?
Oui, j'avais envie d'apprendre qu'est-ce qu'ils font dans les meilleurs restaurants dans le monde pour savoir. Comment moi je peux faire les desserts moi-même avec ces côtés d'expertise, mais technique, ouais. Mais avec un goût un peu plus qui touche le corps.
Personnel.
Oui, personnel. Ouais.
Vous aviez déjà en tête un parcours. Vous aviez déjà un objectif en tête, enfin, en tout cas un objectif d'ouvrir votre restaurant, ou c'était dans un coin, c'était.
Ouais, je crois qu'à la base, c'est pour ça qu'on était rentré aux États-Unis, c'était qu'on voyait notre futur aux États-Unis. Après avoir travaillé 3 ans à New York, enfin même après avoir travaillé 6 mois à New York, je crois qu'on savait déjà que c'était pas pour nous. Et donc c'est pour ça qu'on a redéménagé à Paris. On adore la ville, le rythme de vie,
les produits,
juste le monde, c'est un beau monde. C'est tout le monde avec lequel on travaille, tous nos collègues et nos
qualité de vie.
Ouais, ouais.
Aussi, c'est juste à New York, c'était trop business. Tu ne peux pas vraiment avoir le focus sur la nourriture. Il faut gérer le reste plus que la nourriture. Ce n'était pas ce qu'on voulait.
Et nous, on veut toujours avoir, on va dire, la main
dans la cuisine.
Ouais, ouais. Donc, on a toujours envie de.
Je veux dire que ça passe. Là-bas, ça passe au second plan.
C'est plus que. C'est juste impossible. Tu dois être ouvert 7 jours sur 7, avoir un service qui dure de 17h jusqu'à 23h30, sinon un service de midi et du soir. Donc ça veut dire que tu as 2 équipes complètes.
Il faut avoir des investisseurs, ouais. des chefs de salle, des chefs de cuisine. Et après, c'était trop divisé.
Ouais.
Le chef marketing, la
réseau. Oui, voilà, exactement. Et tandis que là, c'est juste nous, c'est juste moi, Jess et un plongeur, enfin un commis, et on continue à cuisiner.
Ouais.
C'est pour ça qu'on est entré dans ce monde, bien sûr. Enfin, on sait que ça ne va pas être pour le reste de notre vie, mais on aimerait bien.
Ouais.
C'est ça, c'est ce qu'on aime faire, c'est pour ça qu'on est entré dans ce monde. C'est de pouvoir, ouais, travailler.
Donc c'est pour ça que. Enfin, vous avez redéménagé donc ici et vous avez choisi en fait votre projet. Vous avez choisi de le faire à Paris, enfin, plutôt que.
Exactement.
Oui, Rick Morrow, l'idée, c'est. Je pense qu'on est, on était en vacances et un jour on a décidé on.
Qu'on voulait,
ouais, oh oui,
qu'on aime le charbon.
Ouais,
en fait, c'est à la base, c'était juste que le charbon ou la cuisson au feu de bois, au charbon, il y a un côté vraiment inné, presque primordial de c'est la viande, le légume sur un
le
bâton
feu.
Au-dessus d'un feu. C'est préhistorique. Et ça nous apporte toujours du plaisir. Après, enfin voilà, donc le côté yakitori. Pour nous, enfin dans le restaurant dans lequel j'ai travaillé, c'était vraiment le côté le plus pur, l'expression du produit le plus pur qu'on ait vu. On n'est pas en train de chercher des flammes, on n'est pas en train de chercher du brûlé, on est en train de chercher une sorte de cuisson où on ressent le charbon, mais c'est pas le truc que tu as dans la face. Mais après aussi de l'équilibrer, c'est pas juste grillade, c'est du poisson cru, du poisson grillé, des petites pâtes, des bons desserts, des bons vins, c'est tout d'essayer de trouver la qualité
dans tout ce qu'on fait. C'est bien fait, t'as un peu de tout, t'as des pratiques croustillantes, t'as un peu de gratte et t'as un morceau qui explose avec le jus. Dans la bouche, c'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas avoir dans les autres types de cuisson.
Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que c'est complètement différent à chaque fois. C'est le charbon, c'est quelque chose qui est vivant et qui évolue au cours d'un service, tout comme les produits. Donc c'est vraiment le contraire, c'est à l'opposé absolu de tout ce qui est, dans beaucoup de restaurants dans lesquels on a travaillé, les sortes de cuissons sous vide qui sont ultra contrôlées, qui sont ultra précises, parfaites. Mais enfin, ça c'est aussi quelque chose qu'on dit assez souvent, c'est que on préfère avoir un restaurant qui est imparfait mais qui a
vivant.
Qui a du cœur, qui a un cœur qui bat, qui a de l'émotion, qui a une personnalité ou une identité derrière, plutôt que d'avoir quelque chose qui est robotique et parfait, où tu sais, le sel a été millimétré, les petites pousses ont été mises avec des petits machins, et tout a été cuit sous vide et coupé. Je me rappelle quand je travaillais chez Guy Savoy, chez Ducasse, ouais, au Jules Verne, il y avait tout qui était à l'emporte-pièce, donc tout était un cercle, un rectangle, un triangle, un carré, un machin, tout était vraiment millimétré. Mais ils doivent l'être, hein, si tu fais 250 couverts par jour, en essayant d'avoir un niveau de qualité, tu peux pas, t'as pas le choix. Mais c'est pas comme ça qu'on aime cuisiner.
Tout ça en fait vous a aussi donné envie de revenir à une cuisine plutôt du cœur, vivante et très personnelle aussi.
Ouais.
Et on peut aussi jouer avec les textures avec des tout petits plats. Chaque morceau de poulet ou chaque légume va avoir une texture complètement différente.
Un rôle différent dans le menu. Et ouais, je crois que ce côté identitaire, que c'est que ce soit grillade, pâte, avec des menus qui changent pour tout le monde, d'avoir cette sorte de personnalité et d'identité, je crois que c'est aussi ce...
Aussi
ouais.
Dans le, ouais.
Oui, exactement, ouais. Mais je crois que ça, ce côté identitaire aussi marche avec Folderolles, où, enfin voilà, c'est pas logique d'avoir vin et glace ensemble, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on dit tout le temps aux clients, que... on n'est pas là pour faire des pairings, mais on a deux choses qu'on espère bien faire sous un même toit, et que c'est à vous de voir comment vous voulez la jouer. Mais ça marche, mais plus parce que ça marche pour notre identité et notre personnalité, et donc c'est ça qui est un peu communiqué dans l'espace. Et donc c'est plus cette identité qui...
Ouais, c'est très personnel aussi, parce que vous allez... à table pour voir les gens, les ressentir un peu. Et comme tu disais, personne n'a le même menu. Comment vous décidez, tu vois ? Vous arrivez à lire les gens, à savoir...
C'est
à la fois rapide et, tu vois...
C'est une psychologie. Enfin, après, je crois que c'est avec... Après, donc là, ça fait 6 ans, ça va faire 7 ans qu'on va être ouvert. On commence à comprendre les sortes de psychologie. On comprend quelles questions poser pour essayer de trouver les choses qui vont être idéales pour cette personne. Que ce soit la première fois qu'ils viennent, la troisième fois qu'ils viennent, la 10e fois qu'ils viennent. C'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on construit une relation aussi. Qu'est-ce que vous avez aimé la dernière fois ? Ah, ok, on va mettre quelque chose que vous avez vraiment aimé, mais après, mettre des petites surprises ici et là. Mais c'est pour ça que, par exemple, un jeune cuisinier de 19 ans, tout tatoué, ou un couple d'Américains de 65 ans, vont avoir un menu qui va être différent. Mais il se peut que si les Américains veulent, enfin voilà, si le couple d'Américains nous dit ah on est super aventureux, hein, bah bon voilà, ils vont avoir une tête de poisson grillé. On reste.
On fait un menu, mais peut-être après le troisième plat, on découvre que ils sont extrêmement aventureux. On va changer des choses pour.
C'est ça que j'aime bien aussi, parce que c'est assez. Ça peut changer en fait à tout moment.
Ça dépend, dépend du vin aussi. Fin, ouais, de la faim, du vin, du caractère. Enfin voilà.
C'est une relation.
Voilà, exactement. Ouais. C'est une relation courte, mais.
Non, mais c'est pas juste voilà, menu carte. Enfin, oui. Tu vois, le truc qui est imposé. Enfin, c'est imposé, mais discuté.
C'est ça aussi qu'on voulait. Tu sais, parce qu'à la base, le Rig Marron est passé par beaucoup de permutations différentes. Donc, à la base, on avait à la carte et menu du chef. Et là, on a menu du chef qui évolue et qui change. Mais c'est parce que, enfin voilà, on a réalisé que quand on a ouvert en 2017, les menus des chefs imposés et monolithiques n'étaient pas vraiment ce que les gens voulaient. Et ça, c'était cool parce qu'on a pris un an et demi avant de trouver notre restaurant et on a pu travailler dans plein d'endroits, voir un petit peu comment marchait l'air du temps.
Pendant les travaux, tu veux dire
Non, pas pendant les travaux, juste trouver un endroit. On a fait sept offres sur sept emplacements différents, sept locaux différents. Ah ouais. Et c'est le septième qui a marché. On a visité peut-être 150 espaces différents. Enfin voilà, c'était un apprentissage. Ouais, non, c'était compliqué. Donc on a pu comprendre un petit peu comment le menu du chef monolithique n'était pas vraiment ce que les gens voulaient. Et on voulait donner le choix aux clients, ou au moins l'illusion du choix. Parce que c'est vrai que 90% des gens prenaient le menu du chef, mais il y avait des options à la carte. Ça devient quand même le choix du client de prendre un menu du chef. Et le fait que ce soit aussi évolutif veut dire que, en tant que client, tu as une voix. C'est pas le chef dictatorial qui impose son idée du bon dessus. C'est plus une conversation où on a plein de choses qu'on peut faire qui sont toutes aussi délicieuses les unes que les autres, mais laquelle va marcher le mieux pour vous. Et c'est ça qui est cool. C'est une psychologie. C'est ce que les gens choisissent de nous dire.
C'est très aussi cuisine du marché. Enfin oui, voilà, oui, c'est aussi la cuisine des frigos. Enfin. Ou du marché.
Et l'autre chose qui est bien, c'est qu'on sait ce que nous, on a. On sait ce qu'on a dans nos frigos. On a 10 portions de ça, 5 portions de ça, 4 portions de ça, 2 portions de ça. Et donc, après, c'est comme ça aussi qu'on, à la fin d'une semaine, on n'a rien dans les frigos parce qu'on a pu tout donner dans des menus différents. Donc, si on a des huîtres, on va le donner aux gens qui... Enfin, voilà.
C'est... Ouais. Et justement, il n'y a pas de menu préétabli. Vous allez au marché, tu me disais, juste avant d'arriver, t'en reviens. Vous allez au marché, vous regardez ce qu'il y a. C'est viande et poisson, c'est commandé, mais c'est un peu l'humeur du moment.
Ouais, c'est surtout. Donc, la volaille, il y a toujours. Donc, ayant travaillé dans le restaurant de Yakitori, c'est un peu ce qu'on fait, c'est un peu la base, enfin, le squelette du menu. Et puis après, tout ce qui est légumes, poissons, pâtes, ça change tous les jours, toutes les semaines, selon les envies et les inspirations. Ouais. Mais le poulet sera toujours là.
Parce que le poulet, c'est, historiquement, c'est...
Bah, donc, j'ai travaillé dans un restaurant de yakitori qui utilisait presque uniquement des volailles entières. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu fais une découpe de la volaille où tu as toutes les parties différentes qui seront après cuisinées différemment. Donc le croupion va être cuisiné différent du solilès, du cou, du sous-filet, etc., de l'aile.
Comme ça, on peut cuire toutes les parties différentes du poulet.
À l'heure plus succulente.
Oui, à l'heure plus succulente.
Ouais. c'est quelque chose qui est efficace. On utilise 100%. On utilise même le gras de la volaille pour cuisiner les paratas qu'on fait avec les boulettes, tout ce qui est bouillon de volaille, tout ce qui est tout. Enfin, tout est utilisé tout. Et donc c'est ça qui est assez aussi spécial. Il y a zéro gâchis, quoi.
Et donc c'est inspiré. Dire c'est inspiré de des techniques japonaises du Binshuntan, mais revisité aussi beaucoup à votre façon.
C'est le spectre, l'optique. Ouais, enfin il y a toujours notre vision.
Avec des ingrédients un peu plus locaux.
Et la volaille française est très bonne.
Franchement, c'est les meilleurs. Ouais.
Comparé à tout ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est vraiment très bon.
Ouais. Et aujourd'hui, vous pensez dans ces 7 ans avoir trouvé votre identité culinaire?
euh, ça évolue toujours, hein. C'est ça. Donc ouais, comme je disais, il y a eu plein de permutations du rigmarole différentes. Du moment que notre identité reste là, on peut faire un peu ce qu'on veut, comme ça a été vu avec la pizza ou les glaces. C'est du moment que on a notre identité, on peut faire beaucoup de choses différentes. Ouais.
Votre identité finalement est très multiple et
mais je crois que
mixte. Enfin, tu vois,
ouais, mais je crois que ça revient un petit peu à ce qu'on était en train de dire avant, c'est que on veut que ce soit un câlin. On veut que ce soit un câlin calculé, un câlin technique, mais un câlin avec cette sorte d'accent sur la nostalgie, sur le. Enfin, je parle souvent du plaisir intellectuel et du plaisir décadent. Pour moi, c'est un sorte de spectrum de plaisir, et on veut que ce soit un peu au milieu. On veut que ce soit une sorte de plaisir décadent qui est. Enfin, voilà. Donc, c'est.
Mais chaque fois on fait quelque chose, il faut que tu aies envie de prendre
finir, ouais.
Deuxième, troisième cuillère, sinon il faut continuer à travailler.
Ouais.
Pourquoi vous voulez que ce soit un câlin?
C'est pas ça que tout le monde veut. Moi j'aime les câlins.
Ouais.
Enfin non, c'est pas.
Votre vision. Non, mais c'est votre vision de ce que doit être un.
On veut, parce que pour nous le restaurant ça doit être confortable. Ça doit pas être un espace. Ni agressif, ni, comme on disait, dictatorial. Ça doit être, enfin pour nous,
confortable,
familial. Ouais. C'est une relation, et enfin je crois que c'est un peu exagéré, mais c'est, enfin voilà, c'est quand même beaucoup de nourrir quelqu'un, tu vois, et c'est de nourrir l'âme, de nourrir. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est juste nos associations avec la cuisine et la nourriture. C'est juste, nous, on aime être content et être confortable. Et je crois
oui,
que
on peut apprécier un repas très intellectuel, mais est-ce qu'on va revenir? Est-ce qu'on va envie de...
D'herbe amère sur un...
Oui, ou de...
Poisson avec de la bergamote, je ne sais pas.
En fait, des choses qui... Qui rentre toujours dans ma mémoire, c'est des choses qui sont comme un câlin, en fait, c'est pour ça. Des pâtes très bien faites, ou des ramen, des choses simples mais bien équilibrées, oui, que t'as envie de manger toutes les semaines.
Ouais.
C'est marrant parce que je me dis que j'ai beaucoup de souvenirs assez précis de ce que j'ai mangé ici à différents moments. Et c'est vrai que c'est pas le cas partout où ça reste.
Merci,
aussi.
C'est gentil. Ouais. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est. Ouais, s'il y a de l'amour, il faut de l'amour. Ça aussi, c'est un peu stéréotypique, mais. The secret ingredient is love.
Et c'est ce qui vous a guidé aussi dans. Donc, 2020, vous ouvrez Folderol.
Ouais,
c'est
en décembre 2020. Ouais.
Décembre 2020. Ouais. Décembre 2020.
Le milieu de la deuxième vague. Ouais.
Donc, ah oui, c'était à emporter seulement.
On faisait seulement emporter, ouais. Donc c'était ça. Bien, c'est ça qui était cool. Enfin, on n'avait vraiment pas le choix. Pour tout dire, on avait eu pas mal de problèmes de travaux. La structure de l'immeuble était en train de tomber, donc ça a dû être repris. Donc en fait, le projet avait démarré en juillet 2019. Et donc, ça a pris longtemps pour que la copropriété fasse les travaux de rétablissement de la structure. Et puis après, donc, on a reprendre l'espace en septembre 2020 et donc on a ouvert en décembre 2020. On n'avait vraiment pas trop le choix, mais honnêtement c'était bien parce que on peut faire des pots de glace à emporter, on peut faire du vin à emporter, et on a pu vraiment apprendre à utiliser les machines, les recettes, d'améliorer les recettes. Parce que, enfin voilà, c'est ça aussi, c'est qu'on voit aussi une différence entre glace de restaurant et glace pour à la maison. Ouais. Tu vois, une glace de restaurant, ça a le rôle de...
Oui, d'accord.
Ouais,
un petit choc de parfum. T'as une quenelle, t'as trois cuillères, mais tu vas pas terminer un pot entier de ton sorbet à l'oseille. Ouais, voilà, exactement. Et donc, le but, comme je disais avant, de nos pots de glace, c'est... Tu as besoin de vouloir terminer 250 millilitres. De vouloir le terminer. Oui, oui.
Ouais, ouais, c'est ça aussi qui vous a guidé. Et on continue sur cet amour, ce câlin.
Ouais.
C'est vrai que, voilà, les glaces, c'est vraiment le bon moyen d'exprimer ça. Donc, c'est ce qui vous a aussi guidé pour imaginer ces parfums complètement fous.
Bah, ils sont pas. Enfin, ce qu'on dit genre, c'est que c'est pas des parfums qui sont fous quand même. Il y a l'huile d'olive qui est devenue un petit peu notre parfum phare.
Je dis ouais, fou dans le sens aussi, tu vois, des parfums dont on n'avait pas trop l'habitude en France. Je pense au birthday cake. Ou...
Ah ouais, les trucs un peu
américains.
Oui, ça. Bah c'est ça. Mais le truc c'est que
c'est Ben & Jerry's et.
Ouais, mais on veut encore que tu puisses trouver ton bonheur n'importe qui tu es. Donc je crois que ça a à voir avec ça. Donc on a toujours deux sorbets, on a toujours vanille et chocolat, on a assez souvent huile d'olive. Et puis après, le reste, c'est un peu ouvert. On a d'habitude une ou deux infusions, donc que ce soit café ou un thé, que ce soit thé à l'orge ou thé houlang, café vietnamien. Ouais, on a deux fruits secs, que ce soit cacahuète, pistache, amande, maple pecan.
Des fruits doux qui sont un peu plus américains.
Décadentes, ouais, américaines. Ouais, donc que ce soit speculoos cheesecake ou birthday cake ou vanilla fudge.
En fait, vous avez aussi montré, je trouve... un peu la voix sur ces glaces, que ça peut être décadent mais bon,
oui, voilà, exactement. Et le truc, le truc c'est qu'on a une petite machine qui fait 5 litres à la fois, qui est enfin grand pour quand on parle de machine domestique, mais pour un espace professionnel c'est assez petit. Et donc on peut se permettre de faire des petits batchs de glace et changer tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il y a ça change tous les jours. Donc
à part avec une idée.
Oui, je veux exactement celui-là. Mais c'est ça qui coule aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec cette idée précise et puis après on fait goûter aux gens et.
Moi j'adore le sel à l'amande, donc je sais qu'il faut venir début juillet.
La glace à l'amande.
À l'amande.
Ouais, on vient d'en faire une, c'est bon.
Ah là, il y en a.
On n'en avait pas fait depuis longtemps parce qu'on en faisait plutôt des sorbets à l'amande.
Bah, c'était le sorbet, je crois.
Ah d'accord, ok, ouais.
Avec un peu de lait d'amande.
Avec un peu de cannelle dedans.
Je t'avais demandé, tu m'avais dit qu'il y avait les amandes fraîches avec mélangées à plusieurs sortes d'amandes.
Bah, donc, enfin, en fait, on fait un sirop d'orge à maison et puis après, on torréfie des amandes et c'est ça qu'on infuse dans le. Ouais, non, c'est.
C'est là, il y en a en ce moment.
Avec beaucoup de travail, beaucoup d'amour.
Ouais, ouais.
Mais ouais, non, mais c'est cool, effectivement, de revenir, de goûter aussi des nouvelles
ouais,
choses.
Ouais, exactement.
Et ça change tout le temps. En tout cas, c'est vrai que c'est une drôle de combinaison. Donc, glace et vin et qui marche finalement.
Ouais, ça. Qui l'eût cru.
Qui marche. Ouais.
Parce que pour nous, c'était sûrement pratique. Si en hiver on ne vend pas beaucoup de glace, on va vendre.
On va vendre du vin.
Du vin.
C'est vrai qu'en France, tu vois, les Français ne mangent pas de glace en hiver. Enfin, beaucoup, beaucoup moins de glace en hiver.
Mais on passe pas mal de glace ces jours-ci.
Ouais, mais il y a des hauts et des bas. Hein.
Après, vous vendez aussi les pots, on peut venir les chercher.
Oui, on en vend beaucoup plus en hiver. C'est en plus ça, c'est puisqu'on.
En hiver,
puisqu'on ouais. On vend pas mal de pots des gens qui vont. Et c'est ça qui est cool aussi, tu peux aller à un dîner ou quelque chose comme ça, tu apportes ta glace, tu apportes ta bouteille de vin, et puis après, ça sonne comme un one-stop shop.
Et vous avez élargi aussi la sélection de vin avec Folderol.
Ouais, bah, Ellie, enfin, donc on a toujours adoré le vin nature, ça a toujours été, ça a toujours fait partie du rigmarole et de. Et puis, bah, c'est ça qui était génial, c'est qu'on a. Donc l'espace était déjà une cave à côté, il y avait un tout petit espace de cuisine. Et donc, dans tous les cas, on voulait que ce soit une cave. La cave en bas aussi, c'est une cave voûtée qui est toujours fraîche, qui est vraiment magnifique. Dans le petit espace de cuisine, on s'est dit bah, pourquoi pas faire un petit labo de glace. Mais c'est Ellie aussi qui est à Folderol qui nous a vraiment aidé à développer.
Tête de la carte de vin ces jours-ci. Non, et avec Folderol, parce que c'est des verres de vin, c'est apéro, on peut vraiment nous permettre d'acheter très très large gamme de vins.
Ouais, ouais, la sélection est belle. Hein. Ouais.
Et Ellie a juste une sensibilité pour le vin et pour les caractéristiques du vin, mais pas de manière prétentieuse. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est. Enfin, c'est juste de l'amour.
Aussi pour trouver la meilleure bouteille pour le moment, pour cette personne.
Exactement.
Un peu comme vous avec les.
Ouais, voilà, il a vraiment compris comment on marche, comment on fonctionne.
Et vous vous amusez autant d'un côté que de l'autre?
Oui, à 100%. C'est différent parce que ces jours-ci, on passe un tout petit peu moins de temps. Enfin, l'un est les deux boutiques sont à côté, donc c'est assez facile. On goûte tout ce qui est produit.
Oui, on a toujours nos touches sur les glaces.
Mais on a moins le temps de passer, surtout du temps pendant le service à Folderol. Donc, parce que maintenant, on a deux enfants. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a essayé d'organiser ces deux espaces, ces deux business, pour essayer de nous donner le temps et la liberté, le plaisir de pouvoir passer du temps avec nos petits-enfants.
Et c'est vrai que ça fait 3 ans, finalement, que ça a ouvert aujourd'hui. Vous avez peut-être maintenant le temps de prendre plus de recul, enfin, une équipe qui permet de faire ça.
Oui, tout à fait. On a une équipe... pour le service au Folderol qui marche sans nous. On a une équipe en cuisine pour les glaces qui aussi marche pratiquement sans nous. On a la chance.
J'ai une petite tradition, c'est un questionnaire qui est plus tac au tac.
Ok.
Oh, voilà. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, la relève ? Le mot, la relève.
Pour moi, c'est une équipe qui change de main. C'est un changement de main. Il y a un côté renouveau. Moi, c'est comme ça que je le vois, renouveau. Mais avec énergie. Il y a un peu un manque d'énergie avant et un éclat d'énergie après.
Évolution, ouais. Transition.
Votre nouveau kiff culinaire ?
Je sais pas, on va pour la première fois à Saint-Sébastien, là dans une semaine. On espère qu'on aura un kiff culinaire là-bas.
Oui, ça fait longtemps. Je pense qu'on était très concentrés sur la réouverture du restaurant.
Ouais, on sort très rarement. Et à la maison, pas. Non, on s'amuse bien à la maison, mais c'est pas.
Après. Je sais pas. J'ai toujours envie de cuisiner des choses, mais jamais assez de temps.
Ouais. On aime surtout les restaurants, on va dire, un peu traditionnalistes. Donc, quand on sort, on va souvent dans des... Ouais, udon, ramen, couscous, éthiopien.
Vous avez des envies.
Ouais, voilà, c'est ça. Et je crois que c'est ça aussi. On cherche... Ah, les Coréens. Ah oui, ouais, c'est ça. On est dans un restaurant qui s'appelle Ido, au fin fond du 15e. Fin fond, trop, trop loin. Et on a vraiment envie de retourner, mais à plusieurs, parce que familial. Mais c'est du boudin coréen, des intestins, des ouais.
Il y a beaucoup de Coréens dans le 15e, effectivement.
Ouais, exactement. Mais le problème, c'est que c'est très loin. Mais c'est quelque chose qu'on a vraiment envie d'explorer un peu plus.
Votre livre de recettes secrets.
Moi, j'adore, je crois qu'un des fils conducteurs qu'on a, c'est Marcella Hazan, qui est, on va dire, la femme qui a amené la cuisine italienne aux États-Unis pendant les années 70 et 60. C'est Julia Child, c'est un peu la Julia Child italienne des États-Unis. C'est pas vraiment un secret, mais moi, je crois que c'est un de mes livres préférés de cuisine.
J'aime bien le livre sur les glaces.
Hello, my name is Ice Cream. Ouais. C'est un titre stupide, ouais. mais entre technique et personnalité, Hello, my name is Ice Cream. Très, ouais. Très bien.
Une technique découverte récemment ou redécouverte?
Donc, j'avais toujours voulu faire ce type de pâtes qui s'appelle des quadrati ripieni, que j'avais vu dans un livre quelque part. En fait, c'est assez cool. C'est deux couches de pâte avec une farce qui est étalée dessus, et puis après coupée en petits carrés. Et tu peux le mettre dans une soupe. Et c'est vraiment bon parce que tu as donc la pâte qui est là et juste ce soupçon de filling. C'est vachement bon. C'est vraiment bon.
Ouais.
Ouais.
Mais tout le monde me dit qu'ils veulent
un gros bol de ça. Ouais, non, c'est vraiment bon.
Le chef ou la chef montante à suivre?
Dan Pear, Daniel Pearson.
Avec moi, j'aime bien aussi Carlos.
Carlos de Comer.
De Comer, je trouve qu'il est, ouais, il est très pointueux. Moi, j'aime bien. Ouais.
Ouais, c'est vraiment bien ce qu'il fait.
Il y a un compte Instagram que vous vouliez, que vous voulez nous faire découvrir. Ouh.
Tanaka Tatsuya, il fait toutes sortes de sortes de miniatures avec des petits trucs où c'est juste marrant. c'est stupide, mais c'est marrant. Tiens, ça c'est drôle, tu vois.
Comment vous définissez ou comment vous vous définissez ou vous présentez aujourd'hui?
Quand les gens nous demandent genre quel type de cuisine vous faites, on dit toujours ah c'est compliqué, c'est très personnel, il y a des influences japonaises, italiennes, françaises.
J'ai dit souvent on a un tout petit restaurant, on est en cuisine.
Ouais. Plutôt, tu vois, comment vous vous sentez même?
Bien.
Je vais y arriver.
Ouais. Genre,
comment vous vous ressentez?
Comment est-ce qu'on ressent notre propre identité dans la cuisine?
Est-ce que tu es cuisinier? Est-ce que tu dis que tu es restaurateur, pâtissière?
Moi, je me vois comme cuisinier. Je me vois quand on fait la cuisine. On est là, comme on se dit, comme on était en train de parler avant, on aime faire. On aime faire des pâtes et couper du poisson et jouer avec le charbon et découper de la volaille et les mettre en brochette. Et on aime servir les gens. Parce que ça qui est cool, c'est qu'on a un comptoir. Donc, on est aussi. C'est vraiment, c'est ça.
Avec
c'est
des gens, mais je préfère d'être dans la cuisine.
Non, mais pour moi, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Et ce que j'aime, c'est aussi de faire tout de A à Z. Donc oui, on est restaurateur, mais on est aussi parent, on est aussi glacier, on est aussi, tu sais, Jess fait tout le service, donc on est aussi là, sommelier, quoi. On est aussi serveur, on est aussi plongeur quand on a besoin de l'être, on est, donc si on veut regarder le terme restaurateur dans le sens le plus large du terme, oui, c'est pour ça qu'on dit qu'on a des restaurants, parce que on n'est pas juste des cuisiniers qui cuisinent, on n'est pas vraiment des chefs qui dirigent, on n'est pas des restaurateurs qui investissent purement, mais on fait un petit peu de tout ça.
Vous n'aurez jamais un grand restaurant où il y aura d'autres gens, trop d'autres gens que vous, beaucoup plus.
On ne dit jamais, never say never, mais enfin, on va voir ce que le futur va nous apporter. Mais je crois que pour les 5 prochaines années, ça va être un peu le status quo.
Si on a une équipe incroyable, pourquoi pas, mais...
Les équipes, c'est compliqué
c'est
aussi.
C'est toujours compliqué avec les salariés.
J'ai l'impression que vous avez besoin d'avoir le contact.
Ouais, et c'est aussi, c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que
les gens,
parce que aussi les chefs sont aussi des control freaks, tu vois, donc je crois qu'on a aussi un petit peu ce côté-là où on a envie d'être là pour toucher, comme je disais, c'est pour ça qu'on va au marché, c'est pour aussi choisir
chaque
tête d'ail, je l'ai choisi, c'est pas comme si je la recevais un peu au pif dans un, Donc il y a aussi ce côté un peu du contrôle qu'on aime avoir. Donc
contrôle et du plaisir aussi peut-être.
Oui, mais je crois que c'est part et d'autre de la même pièce.
C'est positif et négatif.
Un côté positif. Ouais. Ça nous apporte du plaisir de pouvoir avoir toucher, l'ingrédient quoi. Parfait, de toucher et de.
Oui, d'être fier de tout que nous sert aux clients. Parce que si.
Essayer de A à Z.
Chose qui n'était pas parfaite, ça va nous gêner.
C'est les céramiques de Jess, c'est les. Je ne sais pas, c'est tout. C'est d'avoir ce contact.
Et vous avez combien de personnes entre Folderol et Eric Marolle?
À Eric Marolle, on a une personne à part nous deux.
Ouais.
À Folderol, on a au total.
Pour les pizzas, il y a 2 personnes.
Ouais, il y a 2 personnes pour les pizzas. Mais bientôt. Ouais. Et à Folderol, on a 4 personnes. 4 personnes. 3 personnes et demie. On a un apprenti, une personne qui fait les glaces, qui est une réfugiée ukrainienne qui, il y a 2 ans, n'avait jamais mis pied dans une cuisine et qui maintenant fait les glaces parfaitement. C'est incroyable. Deux personnes en salle.
Et Abdou. Non, on a aussi 2 salariés mi-temps.
Ouais.
Pour le week-end.
Ouais.
Et comment vous vivez ce rôle de chef de cuisine aussi, enfin chef d'entreprise?
c'est pas l'aspect qu'on préfère de la cuisine, mais on a la chance de travailler avec une équipe qui est vraiment incroyable, et donc ça devient du plaisir. Et c'est ça qui est un peu compliqué aussi, c'est d'essayer d'être à cheval entre le côté personnel et professionnel. Mais je crois que, et c'est un peu ça dans notre restaurant, c'est parce qu'on est mariés, parce qu'on a c'est inéchappable d'être à cheval entre le côté personnel et professionnel. Parce qu'on est, mariés, on a une vie en commun, on se voit tous les jours à la maison, on se voit tous les jours au boulot. Donc, dans tous les cas, le personnel et le professionnel sont mélangés.
Ouais.
Et donc, les gens avec lesquels on travaille, c'est des gens qu'on apprécie énormément, du fond du cœur. Voilà. Ouais.
C'est le prolongement un peu.
Oui, voilà.
Enfin, ouais. Ouais. J'allais y venir. C'est vrai que vous êtes à la fois en couple, associé, parent. Est-ce que vous arrivez à concilier tout ça? Comment est-ce que vous conciliez tout ça?
C'est marrant parce que on est toujours ensemble, mais on est aussi des mondes un peu différents. On gère des choses différentes, donc heureusement.
Ouais, mais après on fait quand même énormément de choses ensemble.
Oui, bien sûr.
Et on a toujours des conversations à propos de tout ce qu'on fait. On a des conversations à propos du vin, à propos de la volaille, ouais. À propos des plats qu'on va faire, des desserts.
Les passions.
Et avec les enfants aussi. À la maison, tout est un peu en commun.
Vous êtes répartis les rôles sur le travail?
Jess est un peu plus vin, salle, vin et salle ces jours-ci. Moi, je suis un peu plus en cuisine, mais après, c'est un comptoir, donc je suis ouais. aussi en train de servir, de débarrasser, de faire goûter les vins. Tout comme Jess est aussi en train de faire les entrées, les desserts, de terminer les plats avant qu'ils sortent. Donc, tout est flexible.
Oui, en termes de mise en place, on fait le poulet ensemble, et après, je fais les desserts, Robert fait les poissons.
Et les pâtes.
Les pâtes, et moi, je fais les glaces.
Oui. Non, le truc, c'est qu'on essaye de rester aussi flexible que possible. Si quelqu'un, enfin voilà, et puis à la maison, c'est juste d'être parent, quoi. C'est toujours un petit peu la course, c'est ça aussi qui est compliqué. On se réveille, c'est la course.
Cuisine, des fois c'est moi qui cuisine.
Des fois c'est moi qui couche les enfants, et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on n'est pas coincé dans un monde où moi je suis, parce que ça a été ça pendant un moment, comme je disais, il y a eu plein de permutations de rigmaroles différents. Il y a eu un moment où moi je faisais les services tout seul avec le commis plongeur.
Après le Covid.
Ouais, après le Covid. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et c'était génial. Enfin, mais on faisait que 12 à 14 couverts, que des menus. Mais je passais mes soirées et mes journées ici, et j'avais très peu de contact avec, enfin Jess passait aussi ses journées ici, et Alfred souvent aussi quand il avait 6 mois, mais c'est quelque chose que je suis content d'avoir pu mettre derrière nous, et d'essayer d'avoir trouvé une permutation du rigmarole où on peut passer autant de temps en famille et quand même avoir une boutique qui...
Ouais, j'allais y venir. C'est vrai que je trouve que c'est hyper inspirant la façon aussi dont vous avez pris en compte votre vie de famille pour... Enfin, vous avez adapté votre restaurant, enfin vos activités, en tout cas Rigmarole, à votre vie de famille pour réussir à concilier les deux vies. Donc voilà, aujourd'hui, pendant le temps de la grossesse, ça a été pizza Marole, les pizzas. Et aujourd'hui, vous avez choisi d'ouvrir le midi pour pouvoir passer du temps avec vos enfants le soir. Ça marche?
Ouais, enfin, je crois qu'on va voir. On va voir. Encore, c'est toujours work in progress. Ouais. C'est toujours quelque chose qui est évolutif et qui va... Enfin, comme on disait avant, c'est le côté personnel de la chose veut dire que si notre vie personnelle change, le côté personnel du restaurant doit nécessairement un petit peu évoluer aussi. Et donc, si notre situation familiale change, ça va aussi changer. Je suis sûr qu'une fois que les deux enfants seront à l'école, notre vie sera différente aussi. Jusque-là, ils sont tous les deux en bas âge, et donc c'est compliqué de trouver l'équilibre, parce que ça prend beaucoup d'attention et de, et de temps et d'énergie avec des enfants. Mais encore une fois, c'est un plaisir de pouvoir passer autant de temps avec eux qu'on ne le fait, et de pouvoir aussi avoir une vie professionnelle qui est aussi fulfilling, aussi
satisfaisante.
Ouais.
Et les pizzas ont tellement bien marché qu'elles sont revenues.
Oui. C'est un plaisir de travailler avec Daniel qui a vraiment, on va dire, une philosophie de la cuisine et de la technique qui est assez similaire à la nôtre. Et donc là, on œuvre vers ouvrir un restaurant ensemble. Et
de pizza.
Ouais, de pizza, exactement. Pour lui, donc là, on essaye de l'aider un maximum. Et puis, on espère que dans le courant de l'année, on va avoir une belle pizzeria.
Qui s'appellera Pizza Marole ou pas
non,
du
elle
tout
Elle s'appellera différemment. Non, je crois qu'on a envie de séparer un petit peu l'identité Rig Marole et Daniel.
Dans la rue? Non.
Pas dans la rue, mais pas loin. Mais pas loin. Ouais.
Et vous avez, justement, quand vous avez travaillé sur les pizzas, parce que je trouve qu'il y a quand même un... Enfin, est-ce que vous avez mis votre nez dedans ou vous l'avez laissé libre?
Non, il y a beaucoup de...
De vous aussi,
beaucoup
non
de...
Ouais.
Ouais.
Ouais, les pâtes à pizza, c'est bien sûr Dan et son expérience. Et les toppings, c'est on travaille en vraie collaboration ensemble. On était au marché ensemble pour choisir les produits. Et bien sûr, on a utilisé les sauces de pâtes au rigmarole sur les pizzas au pizza marole.
Les ragouts à la sèche, la matriciana. Là, on vient de faire un ragoût à la queue de bœuf. Les polpettes aussi,
ouais.
Tu vois, donc c'est ça qui est bien. Et tous les produits, c'est ça aussi le truc, c'est que les produits et les assaisonnements restent similaires, on va dire. Bien sûr, c'est vu par et fait par Daniel, mais les produits, enfin la qualité des produits, la fraîcheur des produits.
Oui, on a aussi des choses. Des choses très classiques, margarita, marinara, mais on a aussi des pizzas avec des petits points de citron ou des. On joue avec les textures aussi, des pommes de terre, des endives.
On sent vraiment la pâte.
Oui,
enfin, je trouve qu'on sent la pâte.
Ouais.
Pour ça, je me demandais si c'était
la pâte ou la pâte.
La pâte PA2TE. Oui. Votre pâte.
Parce qu'on sent aussi la pâte à pizza qui est vraiment, et aussi, genre, elle est incroyable.
Oui.
Elle est légère, elle est digeste.
Ouais.
Mais oui, on sent la pâte.
Ouais.
Et les desserts aussi, collaboration.
Il y avait quelque chose aussi dont je voulais parler. C'est vrai que c'est l'engouement que vous avez eu. Par rapport à TikTok, aux réseaux sociaux, à la clientèle. Enfin, c'est vrai que ça a été un sacré chamboulement.
Sacré été.
À tel point que vous êtes le premier bar à vin parisien, je pense, à avoir un videur.
Un agent d'accueil.
Comment vous avez survécu à cette période?
Non, mais c'est compliqué, donc.
En fait, c'était juste parce qu'on voulait avoir une bonne relation avec les clients. Et dès que des gens continuaient de rentrer, même quand on n'avait plus de place, c'est là où on a décidé il faut.
Ouais, mais après, c'est aussi une question. Donc, c'est une rue qui est vraiment silencieuse. Et donc, il y a une souripette dans la rue et tous les voisins l'entendent. Et donc, quand c'est 9h30 du soir et toute la rue est remplie de jeunes tiktokeuses qui crient avec leur vin de verre orange et leur glace à l'huile d'olive, ça a causé pas mal de problèmes avec la police, avec les voisins et aussi avec la qualité de ce que nous, on voulait faire. On a plein de clients réguliers, d'habitués qui ont juste arrêté de venir. Et ça nous a rendu tristes aussi. Donc on avait besoin de réagir parce que c'était aussi pas... enfin, c'est génial, cool, on a une queue qui, ouais. qui machin, mais enfin, toi, t'es pas venu pendant cette période parce que tu voyais ouais.
Je t'avais, je crois que je t'avais fait la remarque une fois, on s'est croisé, et je t'ai dit, non, je t'ai dit, mais vous pouvez pas racheter des verres parce qu'on a pris une bouteille, il y avait plus de verres.
Oui, oui,
et
ouais,
tout.
Ouais.
Tu m'as dit, non, en fait, on fait exprès.
Oui, oui, c'est, on a un certain nombre de verres et qu'on, comme ça, ça nous. Ouais, c'est pas une question de ne pas avoir de verres. On a 1200 verres en haut, et, ouais. mais
je m'étais sentie très vieille et c'est vrai que j'ai fait une petite pause.
Oui, exactement. Et beaucoup, de, ouais. beaucoup de, d'habitués qu'on apprécie ont arrêté de venir aussi. Et c'était devenu très réducteur. Quand la seule chose que tu vends, c'est un verre de vin orange et une glace à l'huile d'olive, et un verre de vin orange et une glace à l'huile d'olive, ça devient déprimant. Ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on vient de discuter, qui ouais. est ce côté personnel, ce côté bah, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ton histoire et pourquoi est-ce que tu es là, et c'est en fait juste parce que tu as suivi un compte de TikTok, c'est juste un robot, quoi, c'est tout. Donc on a besoin de...
C'est pas des gens qui apprécient des bons produits, qui aiment les gens. Ouais, mais après, ouais. C'est plus pour une photo. C'est plus pour une photo, en vidéo. Et
là,
ça, c'était dur. Ça, c'était dur pour l'équipe, oui.
Ça a été dur.
Oui, ouais. oui, parce qu'on ne pouvait plus acheter des vins qui nous plaisent, qui on peut partager avec les clients. Il faut juste acheter des macérations
en
masse quantité ouais. pour mettre au vert.
Et puis après, donc, on a décidé, basta, on a assez de problèmes avec les voisins, on a assez de problèmes avec notre identité, c'est pas qui on veut être, donc on a besoin de mettre, on va dire, les bâtons dans les roues. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à faire pas de glace dehors, pas de verre dehors, pas de le videur qui est là pour, enfin le videur, l'agent d'accueil qui est là pour aider à contrôler, à canaliser, à s'assurer que les gens dehors ne font pas trop de bruit. Et on verra comment cet été va se passer, mais ça a eu des bons effets, on va dire. On est beaucoup, enfin l'équipe est contente, les clients sont beaucoup plus contents. Nous, on est contents.
Mais c'est vrai qu'on voit la partie, tu vois, on voit la partie, comment dire, je vais pas dire positive des réseaux sociaux, mais qui peut faire envie. Ah, ils ont été à l'honneur, ça ramène beaucoup de monde et tout. Et c'est difficile de se rendre compte
ouais.
de l'envers du décor aussi.
Et en tant que business owner, ouais. c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que t'es en train de dire non à un business, ouais. quoi. Les gens veulent nous donner de l'argent et nous, on est là, non, on veut pas de votre argent. Et c'est prétentieux aussi. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué d'essayer de mettre, comme je disais, ces bâtons dans les roues sans avoir l'air d'être juste des gros
un
connards, quoi.
Chiant.
Ouais, ouais, voilà. We don't want to be assholes, tu vois. tu peux vouloir venir que tu sois ouais. pour venir manger une glace. Mais bon, on verra comment cet été se passe. Ça va être un été compliqué avec les Jeux Olympiques et tout ça.
Ouais, ça va pas facile.
Et puis on verra. Le truc, c'est comme je disais avant, c'est d'évoluer.
C'est différent chaque année.
Ouais. Et on a juste besoin de pouvoir évoluer, de pouvoir réagir et de rester nous-mêmes tout en respectant les autres. Quoi.
En tout cas, le bon plan, si on vient avec des enfants, c'est qu'on passe devant.
Exactement, 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 exactement.
Je voudrais peut-être pas le dire.
Ou si mais... tu es enceinte. Non, si, si. Hein. Non, c'est écrit sur le mur. C'est...
Ça, c'est cool. Ouais. Bref, j'allais dire, la tempête est un peu passée. Et
ouais,
vous avez
verra.
Retrouvé
ouais.
votre clientèle.
Oui.
Ouais, alors,
ouais. Ouais, ouais. Non, c'est... Et les gens reviennent, les gens sont contents. Du moment que les gens sont contents, on est contents. Voilà, mmh. C'est vraiment tout. C'est...
Et sinon, toute l'équipe est contente.
Oui, voilà, c'est ça aussi, parce que c'est taxant.
C'est très taxant de servir le même verre
ouais, ouais.
à 50 personnes. Ouais.
Ouais. Vous avez reçu une étoile Michelin en 2020. Est-ce que c'était un graal, une quête?
Non.
Non.
Non. Enfin, c'est un honneur. C'est un honneur d'avoir une étoile Michelin, mais ça n'a jamais été dans nos projets, dans nos désirs, dans nos... Encore une fois, on ne va pas se plaindre. Hein.
Oui, on a été très contents, mais on a plus une étoile, mais on ne chasse pas.
Ouais, ouais, la qualité reste la même.
Ouais,
on fait les choses. Encore une fois,
c'est... Enlever l'étoile.
Ouais, on l'a eu, on l'avait en... On a 2020, 2021 et 2022. Et bien, on l'a pas après, eu 2023. Ouais. Pas, c'est parce qu'on a changé. On est devenu pizzeria. Ouais, on a eu des enfants. Ouais. Enfin, je crois qu'ils nous ont appelés ou ils nous ont dit quelque chose.
Mais ils voulaient pas venir pour les pizzas.
Ouais, ils voulaient pas venir pour les pizzas. Ils auraient dû. Peut-être qu'ils auraient gardé l'étoile.
Ouais. La première pizzeria étoilée. Ouais. Ça aurait été en France.
En France. Ouais.
Bon, comment envisagez-vous l'avenir du rigmarole et est-ce que vous avez des ambitions à venir pour le restaurant?
Je crois qu'encore une fois, pour les 5 prochaines années, 3-5 prochaines années, ça va rester...
Oui, on est contente de...
Plus ou moins similaire. Je crois que c'est plus avec Folderol qu'on se pose des questions. Pour est-ce qu'on a besoin de s'agrandir, de...
Notamment sur les glaces, peut-être.
Ouais, sur les glaces, exactement. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de se développer ou est-ce qu'on reste comme on est?
Vous avez des demandes?
On ne sait pas.
Des opportunités?
Toujours. Oui. Toujours, mais...
C'est juste que l'espace si fait 5 mètres carrés. Ouais. Donc on n'a pas la capacité de production. Et l'autre chose qui est chiante, c'est que tout le monde le veut en été. Personne ne veut des choses en hiver. Donc, en été, nous, on a besoin un maximum de la production qu'on a.
Oui, et si on embauche 2 salariés en plus, pour l'été, après, si on ne vend plus des glaces, qu'est-ce qu'on fait?
Ouais, et parce que ça prend aussi quand même pas mal de temps pour former quelqu'un avec nos goûts, nos techniques, notre... Mais... Donc voilà, on se pose des questions, on verra. Et puis...
On est ouvert.
Oui.
Ouais. On est flexible.
Mais du moment que ça a un sens et que la qualité ne va pas se perdre, je crois que c'est ça le plus important. Comme on disait, se développer, c'est bien et tout. Mais quand tu commences à faire du volume, la qualité souffre. Il n'y a pas... Voilà, c'est quantité ou c'est qualité. Et donc, on a besoin de vraiment trouver les manières de faire où la qualité ne va pas souffrir parce que c'est un peu ça notre carte de visite, d'un certain côté, c'est d'avoir ce côté qualitatif, enfin on espère.
Dernière question, j'ai coutume de demander une recette, plutôt une recette de la maison. Qu'est-ce que vous cuisinez? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cuisiner comme vous?
Ah, à la maison, ce qu'on fait pour des repas, assez souvent pour des repas en famille, tu sais, on a un petit sorte de chauffe-eau à gaz, tu sais, avec les sortes de cartouches à gaz, tu sais, dans des restaurants coréens. On fait un bouillon, on coupe plein de légumes, plein de champignons, un peu de viande, et puis après, on fait juste notre sorte de fondue à la maison, où on fait nos propres sauces, c'est hot, tu le fais comme ça.
Tu mets tout
Non, tu mets pas tout dedans. Tu mets, t'as ton bouillon, tu vois, et puis après, ouais, peut-être que tu démarres avec un peu de chou, et puis après, tu mets des shiitake, et puis après, t'as un peu de porc, et tu prends, et tu as ton propre petit bol de sauce. On met d'habitude un œuf entier, puis après, on rajoute plein de choses, que ce soit de l'huile de sésame, de la sauce d'anchois, du piment, de la ciboulette. En fait, ça dépend de ce qu'on a. Puis après,
on a des tranches, des poitrines.
De porc ou...
Ouais, vraiment fondu, ouais, un peu fondu.
Un peu fondu, mais ouais, mais et c'est cool parce que t'as ton bouillon. Tout ce que t'as à faire, en fait, c'est ton bouillon, couper des légumes et puis après le reste, c'est bon.
Après, à la fin, on met des ramen sans poudre.
Ouais, sans poudre.
Juste les nouilles.
Qui cuit dans les bouillons, qui a été infusé avec les porcs, avec les légumes, champignons, et ça, c'est...
Ouais. Et souvent, c'est ce qu'on fait à la maison pour.
C'est votre repas du dimanche ou pas?
C'est pas. Non, c'est plus quand il y a des gens viennent. Quand il y a des gens qui viennent et
c'est simple.
Et c'est familial, c'est délicieux.
C'est nouveau aussi, oui.
Ouais. Donc c'est un peu un croisement entre fondu, sukiyaki, shabu-shabu. Et c'est. Non, ça nous amuse bien.
Merci.
Merci à toi.
Merci, Julie.
C'était Robert et Jessica Yang de Rigmarole et de Folderole. Pour goûter ce qu'ils ont dans la poêle, rendez-vous dans leurs établissements du 11e Parisien, au Rigmarole rue du Grand Prieuré et chez Folderole, la porte à côté. Vous pouvez retrouver toutes les infos dans la description de l'épisode et évidemment les suivre sur Instagram, même s'ils n'aiment pas trop ça, sur leur compte, le Rigmarole et Folderole. Vous pouvez réécouter les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site agence-larelève.com. Et surtout, nous suivre sur Apoil Podcast et Agence _ La Relève sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Apoil.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.